Sud Radio, je vous écris du Sud. Éléonore de Vulpillière.
Et bonjour Éléonore.
Bonjour Laurence.
Alors ce matin, vous nous emmenez en Provence, du côté de Manosque, sublime.
Nous partons aujourd'hui sur les traces du plus connu des manosquins, Jean Giono. Il est né et mort à Manosque et a grandi entre l'échoppe de son père qui était cordonnier et l'atelier de sa mère qui était repasseuse. Giono est un autodidacte. Il a lu la Bible tout seul, ainsi que l'Iliade et l'Odyssée. Mmh. Il a dû interrompre ses études avant d'avoir le bac, a enchaîné plusieurs métiers, notamment dans la banque, où il a fini sous-directeur d'une agence du comptoir national d'escompte. Mais l'écriture prend de plus en plus de place dans sa vie.
C'est incroyable ça, la banque mène à tout, même à l'écriture. Alors comment il est devenu écrivain, Jean Giono?
Eh bien, lorsque son agence bancaire fait faillite en 1929, l'année de la crise boursière mondiale, celle du grand crack, il cesse toute activité professionnelle pour se consacrer entièrement à son œuvre. Il a 34 ans et vient de publier son premier livre, Colline. Dans ce roman, un hameau composé de 12 habitants doit faire face à l'étrange tarissement de leur fontaine. S'en suivent d'autres malheurs inexplicables. Rationnellement, une jeune fille contracte une maladie inconnue, un incendie se déclare. Les villageois vont imputer la cause de ces bouleversements à Jeannet, qui est le vieux du village, et qui a des hallucinations et s'est mis à parler de façon incompréhensible récemment. Il décide de le mettre à mort, tel un bouc émissaire expiatoire, mais Jeannet mourra avant que le plan soit mis à exécution.
Ah bah dites donc, pour un premier livre, de toute façon le coup des boucs émissaires ça marche forcément toujours, mais Éléonore, pourquoi ce premier roman a-t-il remporté comme ça très rapidement un vrai succès? Comment on l'explique?
Bien, tout d'abord, il faut en voir la particularité qui est la place que Giono accorde à la nature. Oui. La nature ne représente pas qu'un simple cadre, un décor de théâtre inerte. Au contraire, elle est dotée d'une véritable vie. Animal, végétal et même minéral. La terre vibre, la terre vit. Elle semble animée par des forces souterraines, tantôt mystérieuses, tantôt menaçantes. Le vieux Jeannet semble voir l'invisible, et c'est ça qui inquiète les autres villageois. Mais ils prendront peu à peu conscience de cette situation surréaliste à la frontière du surnaturel. On perçoit aussi l'influence de la mythologie sur l'écriture de Giono. Mmh. Par ailleurs, le roman propose le mélange d'une langue poétique et d'une langue populaire, ce qu'on retrouvera dans le reste de son œuvre. Ce n'est pas pour rien que Marcel Pagnol, dont je vous parlerai dans une prochaine chronique, a adapté à 4 reprises des romans de Giono. Je vous fais écouter un extrait d'Angèle, un film de 1934, adapté du roman Un de Beaumugne, qui suit directement Colline, et raconte une histoire d'amour dans le monde rural provençal. On a Tonin, le rémouleur, qui devise avec Saturnin, le valet de ferme interprété par Fernandel.
Ça n'a pas l'air d'aller si bien que ça. On dirait que tu es devenu complètement changé.
Oh, tu sais, moi, ça ne veut rien dire. J'ai toujours été un peu fada, moi. Qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui sont des lumières, il y en a qui éclairent comme le phare de planier, d'autres qui éclairent comme une allumette. Chacun éclaire comme il peut. Le tout, c'est la bonne volonté.
Le tout, c'est la bonne volonté. Bon, cela dit, c'est pas toujours aussi simple dans la vie. Certaines situations peuvent écraser toute bonne volonté humaine, d'ailleurs.
Et oui, on en sait quelque chose en plus d'un an et demi de pandémie de Covid. Dans le roman le plus célèbre de Giono, Le Hussard sur le toit, toute la Provence est ravagée par la fameuse épidémie de choléra de 1832. Angelo Pardi, le héros, colonel de hussards piémontais exilé, est en route pour regagner l'Italie afin de conspirer avec les Carbonari. Il faut savoir que Giono est issu d'une lignée franco-piémontaise, où le mouvement des Carbonari était considéré avec sympathie, notamment par son père, un anarchiste épris de liberté et de justice. Alors qu'est-ce que les Carbonari, en français les charbonniers? C'est un mouvement insurrectionnel qui est né en Italie au XIXe siècle et dérivé de sociétés secrètes qui étaient opposées au Vatican et aux conservateurs. Ce courant défend des idéaux politiques et démocratiques et exige une constitution pour l'Italie unifiée. Ce mouvement se propage en France dans les années 1820 et l'un de ses leaders est Giuseppe Mazzini. On retrouve d'ailleurs son prénom dans Le Hussard sur le toit, puisque un Giuseppe de fiction est le camarade d'armes et frère de lait d'Angelo. Finalement, gilet jaune et Covid, choléra et carbonari, la révolte n'est jamais loin de l'épidémie.
J'aime beaucoup vos allers-retours dans le présent et dans le passé. Mais qu'est-ce qui vient faire sur ce toit, ce fameux hussard, Éléonore?
Eh bien, Angelo arrive dans Manosque, ravagé par le choléra. Il est obligé de ruser pour éviter les quarantaines. Donc, il se réfugie plusieurs jours sur les toits de Manosque et il y observe tous les comportements égoïstes de ceux qui veulent survivre à tout prix. Poussé par la faim, à un moment, il redescend de son perchoir et paf, il se fait enrôler par une vieille nonne comme laveur de cadavres. Ah. Parce que la religieuse veut que les morts se présentent propres au paradis.
Ah, oui.
Il faut noter que le choléra a une valeur allégorique importante. Angelo ne l'attrapera jamais, alors qu'il côtoie de nombreux malades et de nombreux morts. Parce qu'en fait, il méprise cette maladie, tandis que ceux qui ont des réflexes égoïstes de survie, ceux qui ont peur, ceux qui ne font rien pour les autres, sont contaminés. Ça n'est pas scientifique, mais c'est philosophique.
Une belle philosophie à se répéter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il reste de Giono à Manosque aujourd'hui ?
Bien, pour le savoir, je me suis entretenue avec Jacques Ménie, qui préside l'association des Amis de Jean Giono. Le siège de l'association se trouve au Parais, la maison que Giono a habitée entre 1930 et 1970. On y trouve entre autres les 8000 livres qui composaient la bibliothèque personnelle de l'écrivain. Finalement, que dire aux amateurs de littérature de passage à Manosque ?
S'ils souhaitent vraiment entrer de plein pied dans l'univers d'un auteur, d'un écrivain, aussi bien dans sa vie quotidienne que dans sa création, à travers vraiment tout ce qui l'a entouré, je veux dire, s'ils veulent être au contact de l'ADN de l'écrivain, il est là. Mm-hmm. Il y a encore l'ADN de Giono sur tous les objets, 50 ans après sa mort. Il y a toutes les œuvres d'art, tous les objets d'art, tous les objets les plus simples même, qu'il a ramassés, collectionnés, qui sont là, présents. Et s'ils veulent retrouver l'aura d'un grand écrivain et même entrer par là dans son œuvre, venir visiter sa maison, se promener dans ses jardins, il y a de très beaux jardins aussi, c'est une porte énorme, magnifique, ouverte pour entrer dans l'œuvre d'un des plus grands écrivains de son temps et de notre temps, mais aussi pour découvrir, sinon ils ne la connaissent pas, une œuvre qui leur procurera des joies et des sensations de lecture absolument extraordinaires.
Et puis à noter que ce matin aura lieu dans la maison de Giono une table ronde consacrée au monde rural que vous nous avez raconté, Éléonore, et que l'écrivain a tellement exploré. Et ça à l'occasion de la 15e édition, c'est ça, des rencontres Jean Giono.
Exactement, il y aura notamment José Bové. Donc 50 ans après sa mort, l'œuvre de Giono vit encore.
Merci beaucoup Éléonore, je vous écris du Sud à réécouter en podcast sur sudradio.fr. Merci.